Bonjour à tous. J'espère que pour vous l'été se passe bien. Vous profitez du climat exceptionnel, du beau soleil. Que vous profitez aussi de la bouffée d'air frais là, qui est arrivée depuis hier. Ça fait du bien aussi, hein, quand même, de pouvoir respirer un peu. Je suis très heureux de me retrouver avec vous ce matin après effectivement ce temps de vacances. Et je voudrais qu'ensemble on puisse revenir sur un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter avec vous auparavant, les deux dernières fois où j'ai eu l'occasion de prêcher, de prendre la parole le dimanche matin. Et le sujet qu'on a abordé ces deux derniers dimanches, enfin du moins où c'était moi qui prêchais, c'était le sujet de la grâce de Dieu, la grâce en action. Ce qui m'a vraiment mis à cœur de pouvoir aborder ce sujet-là, c'est que je me suis rendu compte que la grâce, on la vivait très facilement au moment où on rencontrait Jésus, au moment où on se convertissait, on devenait chrétien. On réalisait que Dieu pardonnait nos péchés, qu'il prenait la décision souveraine au travers de Jésus-Christ de pardonner nos péchés. On n'avait rien à faire, on n'avait aucune œuvre à accomplir, on n'avait aucun effort pour pouvoir aller au paradis, rien à faire pour mériter notre salut, parce que Dieu nous faisait grâce. Dieu prenait la décision de nous pardonner. Alors c'est une nouvelle qui est absolument extraordinaire. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans la suite de la vie chrétienne, c'était difficile quelquefois de continuer à rester au bénéfice de la grâce. Comme si là, la grâce ne servait qu'à notre salut, mais qu'elle n'agissait plus au fur et à mesure qu'on marchait avec le Seigneur. Alors on a tendance à reprendre les choses en main, à vouloir à nouveau mériter les choses, à compter sur nos propres forces, pour que Dieu nous libère de nos mauvais penchants, de nos erreurs, de notre péché. Donc on a vu qu'en fait, la grâce, elle reste toujours en action. La grâce que Dieu manifeste au moment où nous donnons notre cœur à Jésus, au moment où nous nous convertissons, elle continue d'agir par la suite. Et c'est ce qui fait que nous pouvons grandir et progresser spirituellement. On avait vu dans un deuxième temps qu'il y avait des substituts à la grâce. Un premier substitut, c'est de se donner des règles. C'est de se dire, bon, ben voilà, maintenant je suis devenu chrétien, donc je vais faire, là, donner mon maximum pour faire les choses le mieux possible, et on agit par règles. Voilà ce que je dois faire, et voilà ce que je ne dois pas faire, et en fonction là, de ce que j'aurais bien fait, eh ben, je pourrais avoir la bénédiction de Dieu et comme ça grandir dans ma vie spirituelle. Le deuxième substitut, c'est de se laisser aller. C'est de se dire, bon, ben, Dieu m'a fait grâce, donc ben, j'ai absolument aucun effort à faire. Donc je connais la volonté, je sais ce qu'il voudrait pour ma vie, mais je vais pas m'efforcer de l'accomplir tout le temps, parce que de toute manière, Dieu fait grâce. Alors même si je n'accomplis pas sa volonté, je me laisse aller. On a vu que c'était pas la solution, et que la vraie solution, c'était de pouvoir continuellement et constamment bénéficier de cet accès que j'ai dans la présence de Dieu, grâce à Jésus-Christ. À chaque moment, je peux venir dans la présence de Dieu, et lui remettre mon cœur, lui remettre ma vie, et lui dire, mais là où ça cloche, là où ça va pas bien, Seigneur, aide-moi, accompagne-moi, bénis-moi, fortifie-moi. Oui, j'ai chuté. Oui, là, je n'arrive pas à mettre en œuvre toute ta volonté, tout ce que dit ta parole, mais je sais que par l'onction que tu me donnes, par l'esprit qui est qui peut agir en moi, tu peux agir, et tu peux me changer, tu peux me transformer. C'est la seule manière de pouvoir être victorieux sur nos penchants, dans nos combats, dans nos conflits, Là, par rapport à notre nature, tout simplement. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est aller plus loin et considérer quels sont les éléments qui empêchent la grâce d'agir et quels sont les éléments qui permettent à la grâce d'agir dans nos vies. Parce que notre nature est tellement disposée à reprendre les choses en main qu'elle peut faire barrière à l'action de la grâce. Elle peut amoindrir l'action de la grâce. Et il y a comme des mécanismes de défense, je dirais, qui se mettent en œuvre face à la grâce. Comme si, là, notre moi, notre nature, eh bien, elle veut se défendre par rapport à la grâce. Il y a comme des mouvements de réaction, des mouvements de défense, comme ça. Alors, pour ce faire, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur une histoire qui est racontée dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7. Dans un premier temps, dans une première partie, à l'aide de cette histoire qui nous est racontée dans l'Évangile de Luc, on va voir quelles sont les différentes réactions que nous pouvons avoir face à la grâce. On peut avoir des réactions positives et on peut avoir des réactions négatives. Et il se trouve que dans cette histoire, elle raconte l'histoire de deux personnes que Jésus a rencontrées au même moment. Et vous avez un personnage de cette histoire qui réagit négativement par rapport à la grâce. Et l'autre personnage, l'autre protagoniste, lui, réagit positivement. Et c'est la raison pour laquelle on va se pencher sur cette histoire, on va la suivre verset par verset même, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre à un moment donné. Je vais vous demander de vous concentrer, on va vraiment s'agripper au texte. Il faut vraiment que ça vienne de la parole, hein, ce qu'on partage ensemble. Donc on va aller au texte et je vous invite là à voir ce texte qui se trouve dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 36. Et tout d'abord, premièrement, pour voir la réaction négative à la grâce, qui est caractérisée par un personnage qui s'appelle Simon le pharisien. Donc on va commencer la lecture au verset 36. Et on va aller jusqu'au verset 39 dans un premier temps. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se plaça derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. On va lire le verset 39 aussi. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus est invité par un pharisien qui s'appelle Simon. Si vous êtes familier des évangiles, vous apercevez que souvent entre Jésus et les pharisiens, ça ne collait pas. Il y a beaucoup de conflits. Jésus était très souvent critiqué par les pharisiens parce que Jésus n'était pas aussi rigoureux que les pharisiens en matière de rite et de pureté. Eux, les pharisiens, voulaient se rendre inaccessibles à l'impureté. Et donc, ils s'étaient enfermés dans plein de codes, plein de rites de pureté. Et Jésus, lui, il accordait absolument aucune importance à tous ces rites. Lui, il disait que, de toute façon que ce qui salit l'homme, c'est pas là, ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est ce qui vient de son cœur. Donc c'était là au niveau du cœur qu'il fallait faire ce travail. Ce n'est pas une question de contact avec l'impureté. Donc ça ne collait pas avec les pharisiens, bien très souvent. Mais vous avez quand même quelques pharisiens qui se sont montrés intéressés par l'enseignement de Jésus, par l'Évangile. Alors l'exemple le plus connu, c'est certainement celui de Nicodème, qui a demandé un entretien avec Jésus. Bon, ça s'est fait pendant la nuit, hein, il y allait discrètement. Mais vous avez aussi l'exemple de Simon. Simon, qui est un peu moins connu que Nicodème, mais lui aussi, on le voit, on l'a lu dans le texte, il invite Jésus dans sa maison. Et il y a des indices dans ce texte, dans cette histoire, qui montrent que Simon est vraiment intéressé par l'enseignement de Jésus. Premier indice, Simon invite Jésus à manger chez lui, à venir dans sa maison. Ça veut dire que Simon est prêt à prendre du temps pour écouter Jésus. Dans l'Antiquité, vous aviez des repas qui étaient spécialement organisés pour discuter. C'était des moments de débat, c'était des moments d'échange, des moments là de discussion. Et ça peut se comprendre de la part d'un pharisien, parce qu'un pharisien, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la Bible. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la loi, qui scrutait, examinait les textes de manière constante. Et donc ça veut dire là que s'il invite Jésus, parce que ce n'est pas qu'un vis-à-vis entre d'un côté Simon et Jésus, on va voir dans la suite de l'histoire qu'en fait il y avait d'autres personnes qui participaient à ce repas. Mais là, s'il invite Jésus, c'est justement pour avoir ce temps de discussion, ce temps d'échange. Ça montre que Simon est vraiment disposé à écouter Jésus. Il va argumenter, il va dire ce qu'il pense, mais il est quand même prêt à recevoir, à entendre ce que Jésus a à dire, à parler avec lui de l'Évangile. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que Simon invite chez lui quelqu'un qui ne respectait pas les mêmes codes de pureté que lui. Pour beaucoup de pharisiens, Jésus était considéré comme quelqu'un d'impur, comme un pécheur. On le lit dans les textes des évangiles. C'est un pécheur, lui, parce qu'il ne respecte pas les mêmes rites que nous. Les historiens pensent même que les pharisiens les plus stricts ne mangeaient qu'entre pharisiens. Pour être sûr de manger des aliments qui soient parfaitement purs, manger cachère, et pour être sûr que la personne avec laquelle ils allaient être en contact soit une personne qui soit pure, pour que dans le contact, il n'y ait pas de transmission d'impureté. Donc vous voyez quand même que Simon invite quelqu'un qui n'avait pas les mêmes positions que lui sur la question de la pureté et l'invite dans sa maison. Ça montre quand même que Simon fait preuve d'ouverture d'esprit. On est bien d'accord, hein. Il prend le risque du contact avec quelqu'un d'impur. Et puis, autre indice, on le verra dans la suite du texte, c'est encore un moment dans la discussion, Simon appelle Jésus maître. Ça veut dire qu'il lui reconnaît une autorité en matière d'enseignement religieux. C'était le titre qu'on attribuait aux gens auxquels on reconnaissait cette autorité. Et ça semble vouloir dire qu'à un moment donné, Simon a été interpellé par l'interprétation que Jésus pouvait faire de la loi, des Écritures. Il s'est certainement rendu compte d'une manière ou d'une autre que Jésus avait un langage qui était très différent de ce que les autres maîtres, les autres enseignants tenaient. Et ça a éveillé sa curiosité, ça a éveillé son intérêt, ça a suscité cette curiosité. Alors on se dit, au départ, ça commence plutôt bien pour Simon. Simon, il semble bien disposé à l'égard de Jésus, mais malheureusement, il y a d'autres indices dans le texte qui révèlent qu'en réalité, Simon n'adhère pas pleinement à Jésus et à son enseignement. Le premier indice, on l'a lu, c'est qu'à un moment donné, Simon doute que Jésus soit un prophète. On l'a vu, hein, quand la femme s'approche et puis qu'elle a accompli tous ses gestes, là, elle dit, oh, mais si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Il doute que Jésus soit un prophète. Jésus était connu et désigné comme prophète par la population parce qu'il avait accompli des actes extraordinaires. Il a accompli des miracles, des guérisons. Il avait un enseignement qui était tellement percutant que dans la population, on pouvait assez facilement reconnaître qu'il était le porte-parole de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu. Un prophète, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et lui, il remet en question l'identité prophétique de Jésus. Il remet en cause le fait que Jésus soit bien l'envoyé de Dieu. Et puis, on le verra aussi dans la suite du texte, Simon n'a pas observé les usages qui, à l'époque, étaient destinés à honorer la personne que l'on invitait. Il y avait des codes de bienvenue quand on invitait quelqu'un dans sa maison, comme nous hein, aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ils étaient assez différents. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Le premier code, quand on recevait quelqu'un, qu'on l'accueillait et qu'on voulait l'honorer, c'était de lui laver les pieds. Alors, ce n'était pas forcément la personne qui invitait qui faisait ça. Chez les gens qui étaient un peu aisés, il y avait les serviteurs qui s'en occupaient. Mais la première chose à faire, c'était ça. Laver les pieds de celui qu'on invitait. On est dans le pays d'Israël. Vous connaissez le climat du pays d'Israël. Il fait chaud. Et quand on se déplace à pied, on transpire. Les chemins n'étaient pas goudronnés. Et il y avait très peu de chemins à pierre. C'était des chemins qui étaient en terre. Donc, on transpire. Ça fait de la poussière. La poussière s'agglutine et s'accumule sur les pieds. Il faut savoir aussi qu'à l'époque de Jésus, quand on était à table, on n'était pas assis sur une chaise comme vous et moi dans notre maison. Mais voilà comment on était installé quand on mangeait. Et c'est comme ça que Jésus était disposé lorsqu'il était chez Simon. On était allongé sur des lits, sur des couchettes. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que Simon a invité Jésus et qu'il se mit à table. Littéralement, dans le grec, on pourrait traduire Jésus s'allongea à table parce qu'on s'allongeait de cette manière-là. Vous voyez que la table ou les tables étaient disposées au milieu et les gens se mettaient tout autour. Ils étaient accoudés, si vous voulez, hein, et puis avec l'autre main, ils prenaient les aliments. Donc Jésus se trouvait dans cette position-là avec Simon et tous les autres qui étaient invités. Donc vous voyez que les pieds étaient au niveau du visage. Alors on faisait en sorte, à disposition quand même, que on se retrouve pas avec les pieds comme ça sous le nez du voisin, hein, vous voyez quand même. Mais ça favorisait les odeurs, le manque d'hygiène, bien entendu. Donc c'était important quand même de laver les pieds de ceux qui venaient et qu'on invitait. Ça, c'était le premier code pour honorer les personnes qu'on invitait. Deuxième code, le baiser. On embrassait les gens en signe de bienvenue. Ça, bon, ça pourrait encore correspondre. On ne lave pas les pieds de nos invités aujourd'hui, mais on les invite à se laver les mains éventuellement. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais embrasser, ça faisait partie des codes de bienvenue. Parce que le baiser, quand même, ça crée une proximité physique qui symbolisait la proximité de la relation qu'on voulait avec la personne. Et il n'embrasse pas Jésus quand il l'accueille dans sa maison. Et puis, le troisième code de bienvenue, à l'époque, c'était de verser de l'huile sur la tête de la personne qu'on invitait. Ça aussi, ça se fait pas. Vous imaginez aujourd'hui, on attendrait les invités avec une bouteille de lecière. On dirait, viens, allez, viens, viens Noël, et on verserait la tête sur la tête de l'huile comme ça. J'ai essayé de le faire une fois avec Natou. J'ai voulu lui verser de l'huile sur la tête, mais il a pas voulu. Il a pas voulu. Il s'est dit, ah non, ça va être dur à nettoyer. Mais c'était comme ça que ça se faisait. Vous vous souvenez du psaume 23 ? Tu dresses devant moi une table, face à mes ennemis, face à mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête. Quand on accueillait quelqu'un là à manger, on versait de l'huile sur sa tête. Simon n'a rien fait de cela. Ce qui signifie que l'invitation de Simon, en réalité, elle est très formelle. Elle est polie, elle est courtoise, mais elle révèle que Simon n'est pas entièrement acquis à Jésus. Simon a bien invité Jésus chez lui, à venir, à pénétrer dans sa maison, mais il a volontairement gardé une certaine distance avec Jésus. Et c'est ce qui fait que la grâce ne va pas pouvoir agir dans sa vie. Deuxième protagoniste, c'est la femme pécheresse. Elle a une réaction positive à l'égard de la grâce. Il y a une femme là qui intervient soudainement, de façon complètement inattendue dans le repas, au cours du repas. Là encore, les choses sont très différentes. Si je vous invite chez moi et puis que là on est en train de discuter, puis que d'un seul coup il y a quelqu'un qui ouvre la porte comme ça et puis qui se met à participer à la conversation, on se dit ça va pas, non. La vie au Proche-Orient au 1er siècle, elle était beaucoup plus publique que notre vie aujourd'hui en Occident au 21e siècle. On vit à l'extérieur et les maisons sont généralement ouvertes. Les maisons, il y avait une cour et dans la cour, on rentrait directement dans le salon, là où on mangeait. Lorsque on procédait à des repas qui étaient destinés à discuter, à échanger, à débattre, c'était tout à fait courant que des personnes de l'extérieur viennent assister à la conversation. C'était aussi un moyen d'enseigner. Donc ils ne s'asseyaient pas avec les autres, ils ne participaient pas à la discussion, mais ils se tenaient en retrait et ils écoutaient pour pouvoir profiter de l'enseignement et des échanges qui étaient donnés. Donc c'est dans la culture de l'époque, dans les réalités de l'époque, c'est pas du tout étonnant que cette femme puisse comme ça entrer dans la maison de Simon. On le voit, les motivations de la femme, par contre, sont très, très, très différentes de celles de Simon. Là, le texte est clair. Le texte présente cette femme comme une pécheresse. C'est le mot qui est utilisé. Elle était publiquement connue comme une pécheresse. Son péché était notoire. Elle avait visiblement mauvaise réputation. Souvent, on pense que cette femme était une prostituée. Vous avez vu avec moi dans le texte, il nous est dit qu'elle est pécheresse, le péché n'est pas précisé. Il peut y avoir des éléments, on ne va pas s'étendre, on n'a pas le temps pour ça, qui pourraient laisser penser que c'est tout à fait le cas. Mais le fait est que cette femme, elle avait une mauvaise réputation. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit son péché, qu'est-ce que soit la chose qu'elle ait pu accomplir, elle savait très certainement qu'elle ne serait pas d'emblée la bienvenue dans la maison d'un pharisien. Pharisien, c'est quand même quelqu'un qui a le souci de bien connaître la parole de Dieu, de bien connaître la Bible, de l'appliquer le mieux possible. Et elle était aux antipodes, elle était carrément au contraire de cela. Donc la maison de Simon, la maison d'un pharisien, pour cette femme, c'était un lieu de jugement, c'était un lieu de condamnation. Et en venant, elle prenait le risque d'être jugée, d'être condamnée, peut-être même d'être refoulée. Tu dirais, attends, c'est pas ta place ici. T'as vu ta vie ? Là, tu vois comment tu te comportes ? T'as vu les choix que tu fais ? Et là, non, c'est pas ta place ici. Mais cette femme, elle est tellement motivée. Elle a tellement envie de rencontrer Jésus. Elle a tellement envie de l'entendre et de l'écouter qu'elle est prête à affronter le regard des autres pour rencontrer Jésus. Et vous avez vu qu'elle va pas rester en retrait. Elle va pas faire simplement d'écouter, d'assister aux échanges qui ont lieu. Elle va pas rester discrète dans un coin de la pièce, mais elle va chercher à établir le contact avec Jésus. Elle va s'approcher le plus possible de Jésus, en dépit des conventions de l'époque, en dépit de la manière dont on avait l'habitude de se comporter, elle va venir vers Jésus. Dans le texte, on l'a vu, il est dit qu'elle s'approche par derrière. Alors, voilà, je reviens à l'image de tout à l'heure, on était couché pour manger. Si on imagine que Jésus est à table assis sur une chaise, venir par derrière, ça veut dire qu'elle va ramper sous la chaise pour venir jusqu'au pied de Jésus. Par contre, quand on perçoit bien comment il était disposé, c'était très facile pour cette femme de s'approcher par derrière et puis de venir au niveau des pieds de Jésus. Donc on voit qu'elle s'approche le plus possible. Et le deuxième point aussi qu'on peut souligner, c'est qu'alors qu'elle entend Jésus, alors qu'elle l'entend parler, elle se met à pleurer. Là, il y a toute son émotion qui se manifeste et elle comprend que sa vie n'est pas bonne. Elle comprend qu'elle est dans l'erreur. Elle comprend ses fautes, elle les a devant elle, là. Elle comprend son péché. Elle dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer de vivre comme ça. Là, par rapport à ce que dit Jésus, par rapport à l'espérance qu'il donne, par rapport à l'espérance qu'il communiquait, je peux faire un autre choix. Je peux, là, avoir une autre vie. Elle est prise de remords. On sent, là, qu'elle regrette profondément les choix qu'elle a faits, la vie qu'elle a. Il n'y a absolument aucune ambiguïté dans l'esprit de cette femme. Par rapport à Simon, c'est beaucoup moins net. Pour elle, il n'y a aucun problème. Elle prend tout ce que Jésus donne. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle est au pied de Jésus, que ses larmes vont couler et ses larmes vont commencer à tomber de ses joues et vont inonder les pieds de Jésus. Et quand la femme va s'apercevoir que les larmes commencent à tomber sur les pieds de Jésus, et c'est peut-être ce qui fait que Jésus s'est retourné, elle va saisir ce qu'elle a à sa disposition pour essuyer les pieds de Jésus. Elle n'a pas de linge, elle n'a pas de serviette, alors spontanément, ce qu'elle va utiliser, ce sont ses cheveux. Et ensuite, elle va prendre ce flacon de parfum qu'elle avait amené avec elle, et puis elle va oindre, après avoir embrassé les pieds de Jésus, elle va verser ce parfum sur les pieds de Jésus. Tout indique que la femme se considère vraiment comme une pécheresse. Tout indique qu'elle a compris qu'elle avait besoin du pardon, la grâce de Dieu. On voit comment elle cherche à réduire au maximum la distance entre elle et Jésus. Et c'est ce qui fait que la grâce a pu agir en elle, que la grâce a pu agir dans sa vie. Vous avez vu comment les gestes de la femme suscitent la réprobation de Simon. Ah, Simon, là, il est scandalisé. Là, il se dit en lui-même, mais ce comportement-là, il est tellement incorrect, tellement déplacé. Cette femme est impure. Et Jésus se laisse toucher par cette femme impure. Vous imaginez si cette femme est réellement une prostituée. Ça veut dire qu'elle va venir vers Jésus avec tout ce qui lui servait à exercer son activité. Le parfum pour attirer les clients, la chevelure, pareil, et sa bouche pour embrasser. C'est gênant, sérieux, c'est gênant quand même. Hein, si je sens que vous êtes gêné. Mais c'est pour comprendre ce que Simon a pu ressentir. On n'est pas pharisiens, nous, là, on n'est pas de la même école. Et encore que bon, on verra après. Mais c'est gênant, ça peut être très gênant. L'attitude pourtant cachée de Simon va conduire Jésus à raconter une petite histoire, une petite parabole. C'est ce qu'on lit au verset 40 jusqu'à 43. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison, tu as raison. » L'histoire entière que je suis en train de vous raconter, enfin, qui est dans l'évangile de Luc, cette histoire entière, elle s'articule autour du verset 42. C'est ce verset-là qui est le verset central, qui est le verset clé de cette histoire. Aucun des deux débiteurs ne peut payer sa dette. La différence entre les deux dettes est énorme. Il y en a un qui doit 500 deniers, 500 pièces d'argent, et un autre qui doit 50. Et celui qui doit 500, il ne peut pas payer, mais celui qui ne doit que 50, il ne peut pas payer non plus. La seule manière pour les deux débiteurs d'être libérés de leur dette, c'est quoi ? C'est que le créancier leur fasse grâce. C'est que le créancier décide, lui, librement et souverainement, d'effacer leur dette. C'est lui qui doit dire, allez, on n'en parle plus, c'est terminé, effacé. Cette dette disparaît. Si Jésus raconte cette petite histoire, c'est parce que Simon, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il a autant besoin de la grâce de Dieu que la femme pécheresse. Autant, pareil. Il a sûrement moins péché que la femme, on peut lui accorder ça, mais il ne peut être sauvé de son péché que si Dieu lui fait grâce, que si Dieu lui donne le pardon. C'est une décision souveraine qui va venir de la part de Dieu. Bien que Simon lise la Bible, bien qu'il prie, bien qu'il fréquente la synagogue fidèlement, il a autant besoin de la grâce de Dieu que la femme, qui pourtant a une vie qui est complètement différente, bien moins bonne, bien moins réglée. Simon n'a pas autant à se faire pardonner, c'est certain, mais il a quand même besoin d'être pardonné. C'est ce que Jésus veut dire. Il n'a pas autant péché que la femme, mais il a autant besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui explique que Jésus, là, en appliquant sa petite parabole à la situation... C'est ce qui explique que Jésus applique cette parabole à la situation qu'il est en train de vivre avec Simon et la femme. C'est ce qu'on trouve dans les versets suivants, verset 44 au verset 48. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Quelle est la différence fondamentale entre Simon et la femme que Jésus veut montrer ? C'est là que ça doit nous intéresser maintenant. Quelle est la différence fondamentale entre Simon d'un côté et la femme pécheresse de l'autre ? La différence fondamentale, c'est que Simon ne réalise pas la gravité du péché. Il ne réalise pas combien c'est grave le péché. Alors il se compare, notamment avec cette femme, sans doute, il minimise son péché, il maximalise ses mérites et il se rassure. Moi, je n'ai pas besoin du pardon comme cette femme a besoin du pardon. La femme, elle se rend compte de la gravité du péché. Elle n'a qu'à se retourner, elle n'a qu'à voir ce qu'a été sa vie. Elle n'a qu'à voir les conséquences de ses choix. Elle n'a qu'à voir la situation dans laquelle elle se trouve. Et elle se rend compte que c'est grave. Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est grave. Elle ne se compare pas. Elle n'a pas les moyens. Si elle se compare à Simon, elle ne tient pas la comparaison. Mais elle prend ses erreurs au sérieux. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle avoue son incapacité face au péché. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, cette femme, que de regretter ses fautes, que de regretter son péché, que de là de ressentir ce remords ? Alors, avec ça en tête, on va voir, deuxièmement, ce qui empêche la grâce d'agir. Parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, notre nature met en place des mécanismes de défense, à la fois face au péché et face à la grâce. Notre nature, elle nous appelle à constamment reprendre le contrôle de nos vies. Et le contrôle, ça passe par le fait de se justifier face au péché. Comme ça, on se rattrape nous-mêmes. On n'a plus besoin de se référer à Dieu, on est aux prises avec un péché, mais on va gérer les choses par nous-mêmes. Alors comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on se rattrape ? Comment on se défend face à nos fautes ? Premièrement, on se défend en minimisant le péché. Lorsqu'on lit cette histoire, on est appelé à s'identifier à qui ? Je pense que cette histoire, elle est racontée pour qu'on soit appelé à s'identifier à la femme pécheresse. Mais l'identification à laquelle on va procéder pour nous-mêmes, elle va dépendre de la réponse qu'on va donner à cette question. C'est jusqu'à quel point j'ai conscience que le péché, c'est grave. Jusqu'à quel point j'ai conscience que le péché, c'est grave. Alors, je suis désolé de plomber un peu l'ambiance ce matin, mais on vit dans une société qui axe beaucoup tout sur le développement personnel et l'épanouissement personnel. Et souvent, on reporte ça aussi dans notre façon de vivre la vie chrétienne. La louange, l'adoration, ça m'apporte, ça contribue à mon épanouissement. Je me change les idées, je suis prêt à affronter la semaine. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis né de nouveau, etc. Toutes ces choses-là qui sont bonnes et qui sont vraies, bien entendu. Mais il y a un moment quand même où il faut se souvenir que si je rentre dans cette dimension du salut, si toutes ces richesses sont à ma disposition, si je peux vivre ce bonheur et cet épanouissement, c'est parce que j'ai échappé à quelque chose. J'ai échappé à la perdition que causait le péché. Le péché, je vous rappelle, c'est pas simplement une liste de choses qui sont mauvaises et qu'on doit pas faire. Le péché, c'est ce qui nous pousse à être autonome par rapport à Dieu, à être indépendant de Dieu. Le péché, c'est ce qui me pousse à me perdre parce que je fais des mauvais choix, parce que je ne connais pas la volonté de Dieu et j'agis par moi-même. Alors, ça m'entraîne là dans des conséquences qui sont mauvaises pour ma vie. Le péché, c'est ce qui détériore mes relations avec les autres, dans ma famille, avec mon voisinage, au niveau de mon travail. C'est ça, le péché. C'est grave, le péché. Le péché, c'est ce qui fait que pour toute l'éternité, je suis séparé de Dieu. C'est ça. Quand on traite le péché en le minimisant, il ne permet plus à la grâce d'agir. La grâce nous sauve du péché. Mais si je le minimise, je ne vais pas laisser la grâce agir. Si bien que, même en tant que chrétien, il se peut qu'on ressemble plus à Simon qu'à la femme pécheresse. C'est très difficile d'admettre nos erreurs. Quand on est face à nous-mêmes, on préfère fermer les yeux. C'est notre réflexe. Vous voyez, quand je vous parle des mécanismes de défense, c'est ça. Mais si je ferme les yeux sur mon péché, la grâce n'agit pas. Parce qu'on est naturellement centré sur soi-même. Et on a des réflexes d'autodéfense face à nos fautes. Le théologien chrétien qu'on cite très souvent dans cette église, c'est un apologète, c'est aussi un romancier, il a écrit les Chroniques de Narnia, c'est C.S. Lewis, il a écrit la phrase suivante dans un de ses ouvrages. Il a dit, je vais lire pour vous, ce qui ne doit pas être très visible sur la diapo. « Pendant longtemps, j'ai eu l'habitude de couper les cheveux en quatre en faisant cette distinction idiote. Comment serait-il possible de détester ce qu'a fait un homme sans détester l'homme lui-même ? » C'est vrai que la Bible nous invite à ne pas aimer le péché, mais à aimer les hommes, à aimer les pécheurs. Il se dit non, c'est pas possible. Si quelqu'un fait quelque chose qui est mal, je peux détester ce qu'il fait, mais c'est quand même dur de ne pas détester en même temps la personne qui a fait ça. Mais des années plus tard, continue Lewis, j'ai réalisé qu'il y avait un tel homme auquel j'ai eu affaire toute ma vie. Et cet homme, c'était moi-même. Et en fait, et son analyse est vraiment intéressante, en fait, la raison pour laquelle je détestais les choses que cet homme faisait était la même raison pour laquelle je l'aimais. Juste parce que je m'aimais, j'étais désolé de constater que j'étais la sorte de personne qui était capable de faire ces choses, qui pouvait faire ces choses. Et c'est chaud, hein. Si on était comme Jésus avec Simon, si on était plusieurs là, allongés à table et qu'on parlait ensemble, on pourrait parler du péché, on serait tous d'accord pour dire que le mensonge, c'est un péché. Dire non, c'est pas bien le mensonge, là, on travestit la vérité. Et la Bible nous invite à exprimer la vérité. On serait tous d'accord pour dire que la critique, c'est un péché. C'est pas bien la critique. Parce qu'en critiquant, on va ternir la réputation de quelqu'un. On serait tous d'accord pour dire que la colère, c'est un péché. Là, on hausse la voix, on peut se montrer très brutal au travers de nos paroles, quelquefois même au travers de notre comportement, et on peut infliger des blessures graves à certaines personnes, physiques, psychologiques. On serait tous d'accord pour dire que l'adultère, c'est pas bien, parce que c'est de la trahison. Mais quand ça nous concerne directement, quand on doit faire face à ces choses pour nous-mêmes, on a soudainement les meilleures raisons du monde pour se justifier. C'est ça le mécanisme d'autodéfense qui se met en route, que notre nature produit. Ah oui, j'ai menti, c'est vrai, mais... je ne pouvais pas faire autrement. Là, je n'avais pas d'autre solution. Donc, c'est un petit mensonge. J'ai menti. Oui, j'ai menti. Je n'ai pas tout déclaré aux impôts. Mais quand même, cet argent, j'en ai besoin. J'ai des travaux à faire dans la maison. J'ai une nouvelle voiture à acheter. J'aimerais bien partir en vacances cette année. On a plein de bonnes raisons. Ah oui, je me suis mis en colère. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai, bon, la colère, c'est pas très bien. Mais enfin, quand même, ce qu'il m'a dit, son comportement, forcément... que je me suis mis en colère. Vous voyez, ce genre de raisonnement. La critique, ok, j'ai bien dit ce que j'ai dit, mais tout ce que j'ai dit, ça repose sur des vraies bases, sur des réalités. L'adultère, avec la collègue, là, au niveau du travail, là, je sens qu'il y a un truc, là, on pourrait conclure. Donc, je suis marié, mais... tellement compliqué en ce moment. Ma femme, elle ne répond pas vraiment à mes attentes. Là, je suis dans un moment de creux. Je ne sais pas si... On peut trouver plein d'explications. Ça, c'est le mécanisme auquel nous devons faire face les uns et les autres. De manière constante. Si, par mon raisonnement, là, je permets à ma nature de reprendre les choses en main, la grâce ne peut pas agir. Si je rentre dans ce processus d'argumentation et d'auto-justification... comme Simon, je peux venir à l'église fidèlement, je peux lire la Bible régulièrement, je peux être guidé par le souci de connaître sa volonté, comme Simon, et pourtant ne pas laisser la grâce agir en moi parce que je vais minimiser la gravité du péché. Et le recours à la grâce devient inutile. Deuxième point, c'est qui nous amène là à empêcher la grâce d'agir, c'est de se comparer aux autres. On peut facilement se rassurer et éviter de traiter le péché en se comparant aux autres. Ça, c'est pratique parce qu'on trouvera toujours moins bien que nous. C'est-à-dire, si on rentre dans un processus de comparaison, c'est sûr qu'on ne va pas se comparer à ceux qui sont meilleurs que nous. De préférence, on va choisir des personnes qui sont moins bonnes, moins efficaces que nous, puis on va dire, bon, bah voilà, je m'en tire très bien, finalement. Vous voyez comment ça a marché entre Simon et la femme pécheresse? Ah là, c'est sûr, il n'y a pas photo entre l'un et l'autre. Donc, on va là aussi, empêcher la grâce d'agir parce que ça va, on va se convaincre que nos fautes sont pas si graves, qu'elles sont beaucoup plus graves chez les autres, là, et qu'il y a des situations plus compliquées chez les autres que dans notre propre vie. C'est comme l'histoire de ces deux ouvriers qui étaient montés sur le toit d'une usine. Ils devaient refaire la toiture et ils étaient en train de travailler à ça. Ils avaient monté un échafaudage et puis d'un seul coup, l'échafaudage commence là à bouger et il s'écroule et les deux hommes basculent dans la cheminée de l'usine. Donc ils arrivent en bas, ils font une chute de quelques mètres et puis bon, ils se relèvent, ça va, ils ont rien, ils ont rien de cassé. Ça s'est pas trop mal terminé pour eux. Et ces deux hommes, ils avaient adopté deux solutions différentes pour éviter de se fracasser en bas. Il y en avait un qui avait réussi à s'agripper pendant la chute sur les rebords de la cheminée. Et donc, ça avait amorti la chute avait été moins violente en bas. Et puis, l'autre, par contre, il s'était roulé en boule comme ça pour pouvoir se protéger et éviter que le choc là soit, il tombe sur un membre et puis qu'il se casse quelque chose. Donc, les deux hommes, sortant indemnes de cette... De cette chute, ils vont retourner au travail. Et pourtant, alors celui évidemment qui s'était agrippé au rebord, il avait le visage tout noirci par la suie. Et puis, par contre, celui qui s'était roulé en boule et qui s'était protégé le visage, il avait le visage tout blanc. Et pourtant, avant de retourner au travail, l'ouvrier qui avait le visage propre est allé se laver. Tandis que l'ouvrier qui avait le visage sale est retourné au travail sans se laver. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris? Et là, c'est ça. Ils sont regardés l'un et l'autre. Celui qui avait le visage noir, il a vu celui qui avait le visage blanc. Il dit, j'ai pas besoin d'aller me laver. Et celui qui avait le visage propre, il a vu le visage noirci de l'autre avec la suie. Il a dit, faut que j'aille me laver avant de partir retourner au travail. Si on se compare aux autres, on va forcément renvoyer une image fausse de nous. On ne trouvera pas la réalité, on ne trouvera pas la vérité, parce que ce n'est pas le bon étalon, ce n'est pas la bonne mesure. Si je me compare à un autre homme, à une autre femme, je ne retrouverai pas mon image. La solution pour ces deux hommes, ça aurait été quoi? Ça aurait été de se regarder dans un miroir. Et évidemment, ça nous renvoie à ce que dit la parole. Le miroir, c'est la parole. Et dans la parole, on trouve le reflet de qui? De Jésus lui-même. Si nous voulons nous comparer, c'est certainement pas aux autres. Là, dans nos erreurs, dans nos fautes, dans nos faiblesses. Et non, il faut revenir à la parole et se laisser enseigner par ce que dit la parole sur mon caractère, sur ma personnalité, sur mes choix. C'est la seule manière là, de pouvoir laisser la grâce agir. Pour régler le problème du péché, on ne devrait pas se comparer aux autres. Et puis, on va terminer avec ça, ce qui permet à la grâce d'agir. Face aux sollicitations de notre nature, la solution, c'est d'avoir foi en la grâce de Dieu. C'est d'avoir une disposition d'esprit qui permette à la grâce d'agir. Et le premier élément qui va permettre à la grâce d'agir, c'est l'amour pour Jésus. Jésus dit au verset 47, je te dis, cette femme, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce verset indique, où Jésus indique que la femme a manifesté beaucoup d'amour à son égard. Cette femme, elle sait que sa vie n'est pas convenable. Elle le reconnaît et elle l'expose devant Jésus. Elle ne nie rien, elle ne cache rien, elle ne minimise rien. Elle dit, c'est grave ce que j'ai fait. Et là, je suis face à cette chose qui est si grave et je veux être transparente. Et si elle agit de la manière dont elle a agi, c'est parce qu'elle sait que face à Jésus, elle n'est pas jugée, elle n'est pas condamnée. Elle sait qu'avec Jésus, un nouveau départ est possible. Et c'est ce que permet la grâce de Dieu dans nos vies, même après notre conversion, même là, lorsque nous sommes confrontés à nos faiblesses. Cette femme, elle se présente devant Jésus telle qu'elle est. Et c'est ce qui fait que la grâce va agir, parce que son cœur est repentant, elle regrette, elle veut vivre quelque chose de nouveau, et elle vient vers Jésus pour vivre quelque chose de nouveau. Et si nous nous présentons devant Jésus pour vivre quelque chose de nouveau, si nous sommes sûrs de son amour, nous pouvons entrer dans quelque chose de nouveau. Exactement de la même manière de cette femme, alors que peut-être on est aux prises avec un péché, on est aux prises avec nos mauvaises habitudes, eh bien on a cette possibilité, grâce à l'amour de Jésus, d'avoir ce nouveau départ. Oui, c'est pas beau, peut-être que c'est pas beau, mais je le regrette, je veux autre chose pour ma vie. Alors Seigneur, viens te manifester, viens m'accompagner. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup l'entendre prêcher, et c'est beaucoup plus facile maintenant grâce à Internet, qui s'appelle Tony Campolo. Vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, et c'est un prédicateur extraordinaire. Bon, je vais le dire à chaque fois que je parle de Tony Campolo, mais c'est vrai. Et il a tout le temps plein d'histoires à raconter, et qui sont vraiment intéressantes, et il raconte cette histoire. Il dit qu'un jour, il était à l'aéroport, il devait faire un vol intérieur aux États-Unis, parce qu'il est américain, il est pasteur là-bas. Et puis, donc, il était dans l'aéroport et puis il attendait son vol. Il devait aller à Colorado Springs, précisément. Donc, c'est un vol assez court. C'était une 30 minutes, une demi-heure à peu près. Et alors qu'il était dans l'aéroport en train d'attendre son avion, il y avait une petite fille avec sa maman qui était là à côté de lui. Et puis, cette petite fille, elle était toute mignonne. Elle avait une belle robe, elle avait des souliers vernis, elle avait des nattes. Enfin, voilà, la petite fille modèle, mignonne, ravissante. Elle n'arrêtait pas de chanter, elle n'arrêtait pas de sautiller. Elle disait, je vais revoir mon papa, je vais revoir mon papa. Elle était vraiment impatiente parce qu'elle prenait l'avion pour retrouver son père. Visiblement, ça fait quelque temps qu'elle ne l'avait pas vu. Alors au début, Tony Campolo, il trouvait ça mignon, là, so cute, comme ils disent les Américains. Mais sauf qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je viens, mon papa, ça devient prenant, ça devient pénible. Donc il était content quand il a entendu l'appel, les passagers pour le vol numéro pour Colorado Springs. Donc il est rentré dans l'avion, et quand il s'est assis, il a eu la bonne surprise de voir que juste au rang d'à côté, il y avait cette petite fille avec sa maman. Et ça continuait, je vais voir mon papa, je vais aller voir mon papa. Donc, gros exercice de patience. Donc, c'était un vol assez court. Et ce qui était proposé par les hôtesses, vous savez, elles passent dans les allées. Pour ceux qui ont pris l'avion, vous voyez comment ça se passe. Donc, ils proposent des boissons à manger. Et là, il y avait juste des cookies et du Coca-Cola. Et à chaque fois que l'hôtesse passait dans l'allée, elle voulait voir, oh, elle prenait un cookies et elle buvait du Coca-Cola. Et Tony Campolo, il voit ça, il se dit, mais comment c'est possible qu'un si petit ventre peut contenir autant de cookies et absorber autant de Coca-Cola. Et le vol se poursuit, et puis, juste avant d'arriver à Colorado Springs, il y a un orage qui éclate. Donc, coup de tonnerre, l'avion commence à tanguer à cause de l'air et du vent qui souffle, et puis la petite fille, elle est devenue verte. Le mélange cookies, Coca-Cola, vous voyez ce que ça peut donner. Elle était belle, elle avait des souliers vernis, elle avait des nattes, elle sentait bon, et puis d'un seul coup, pouh! Explosion, tout le mélange Coca-Cookies là est sorti, a été expulsé violemment sur sa belle robe, sur ses beaux souliers, dans ses cheveux, sur sa maman à côté. Et ça a rempli l'avion d'une odeur succulente. Autant dire que Tony Campolo était vraiment content d'arriver à Colorado Springs. Et quand il est arrivé, il a vu dans l'aéroport un homme qui se tenait là et qui attendait des passagers qui venaient du même avion que lui. Et puis, il s'est dit, tiens, mais est-ce que ça pourrait pas être le papa de la petite fille? Et donc, il a attendu pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et il a vu la petite fille arriver dans son état rempli de vomi, là, du haut jusqu'en bas. Et puis, elle a dit, papa! Et son père était habillé en costume de flanelle. Vous voyez, il était très élégant, un homme d'affaires, quelque chose comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à genoux, il a accueilli sa fille, il l'a assis sur ses genoux et il l'a serré dans ses bras, sans tenir compte de ce qui s'était passé. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu, nous accueille exactement de la même manière, quelles que soient les choses que nous avons pu accomplir, même si on a l'impression que ça nous salit, il nous accueille de la même manière. Et c'est cet amour que Jésus me porte, qui me conduit à l'aimer et à laisser la grâce agir. L'histoire de Simon et de la femme enseigne que l'amour que nous portons à Jésus est proportionnel à la compréhension que nous avons de sa grâce. Plus je me rends compte de la gravité du péché, et plus j'apprécie la grâce de Dieu. plus je me rends compte de la gravité du péché et plus j'apprécie l'amour que Jésus a manifesté pour moi à la croix. Il a souffert, il a payé pour moi. Malgré ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, ce que j'ai pensé, plus j'aime Jésus et moins j'aime le péché. Et quand je suis confronté au péché, quand la tentation est là, et même quand j'ai failli, la seule solution, c'est d'admettre ma faiblesse. C'est de reconnaître ma responsabilité. Et quand je regrette sincèrement ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pensé, ce qu'a fait cette femme, si je le confesse à Dieu, avec honnêteté, avec sincérité, alors je permets à la grâce de Dieu d'agir, et j'ai la possibilité d'être délivré, d'être nettoyé de mon péché, d'être vraiment transformé. C'est au travers de cette relation d'amour que je vais avoir avec Jésus qu'il va y avoir cette action de transformation qui va se faire dans ma vie. Quand on considère ce lien intime qui existe entre la grâce et l'amour, ce n'est pas possible de galvauder la grâce de Dieu. Je vais pas revenir à ce qu'on a vu la dernière fois. Mais on ne peut pas prendre la grâce de Dieu et en faire un permis pour accomplir tout ce qu'on a envie de faire, même si on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je peux pas d'un côté confesser mon amour pour lui en me prosternant à ses pieds, comme l'a fait cette femme, pour l'honorer, en l'embrassant avec mes louanges, en le parfumant avec mon adoration, et de l'autre, faire le contraire de sa volonté. Mon amour pour lui me pousse au contraire à vouloir lui être agréable. Et c'est ce qui fait que la grâce agit et que le péché n'est pas victorieux sur moi. Et le deuxième élément qui permet à la grâce d'agir, on va terminer avec ça, c'est la paix que produit le salut par la foi. Vous pourriez nous accompagner, les musiciens, pour terminer le message, commencer à jouer. Vous pourrez reprendre la grâce qui m'attire, là, je crois que c'est excellent. On ne s'est pas concerté, mais... La paix que produit le salut par la foi. Versets 49 et 50, c'est ce qui termine cette histoire. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus déclare à la femme le pardon de ses péchés. Il proclame le pardon des péchés sur la vie de cette femme. Cette femme, grâce à la parole de Jésus, grâce à l'autorité de Jésus, passe du statut de pécheresse au statut de pardonné. Elle passe du statut de condamné au statut de gracié. Son péché est effacé. Ce qui fait que cette femme ne va plus se percevoir au travers de sa vie de péché, au travers de ses fautes, mais elle va se percevoir au travers de ce que Jésus a accompli pour elle et ce que Jésus a dit sur sa vie. Son identité n'est plus condamnée, mais sauvée. Son identité n'est plus pécheresse, mais graciée. C'est ça maintenant qu'elle est appelée à vivre. C'est ça qu'elle est appelée à être dans sa personne même. Et il y a une seule chose qui a permis ce changement de statut. C'est sa foi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est sa foi dans la parole de Jésus. Jésus m'a dit, je suis pardonné de mes péchés. Jésus m'a dit, je peux changer de vie. Jésus a dit, je peux être victorieux là de ce qui m'a accablé jusqu'ici. Grâce à sa parole, je sors de la condamnation, je rentre dans la grâce. Alors ça, je me saisis de cette parole. Je crois qu'elle est vraie. Je crois qu'elle est vraie pour moi. Et à chaque fois que là, nous sommes en situation, là, comme la femme pécheresse, on est appelé à se saisir de la parole de Dieu, de ce que Jésus nous dit. Il dit, tu es pardonné. C'est le regard que je pose sur toi et c'est le regard que tu dois avoir maintenant sur toi. Il y a une seule chose qui permet encore aujourd'hui à la grâce de continuellement agir dans nos vies. C'est la foi dans ce que la parole de Dieu révèle sur le pardon qui a été parfaitement et définitivement acquis par Jésus à la croix. Ce qu'il a fait est définitif et parfait. Il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter. On a juste à se saisir et accepter par la foi ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Alors que je suis appelé à saisir que rien, absolument rien, ne peut remettre en cause l'amour et la grâce de Dieu à mon égard. Et ça me communique une paix profonde. Une paix profonde. Jésus, à Gethsémané, a connu les tourments, a connu l'angoisse jusqu'à transpirer du sang, pour que moi, je sois libéré des tourments et de l'angoisse, pour que moi, je puisse recevoir la paix. Pour dire, je suis pardonné. J'ai plus à lutter. J'ai plus là à essayer de m'en tirer par moi-même. J'ai juste à saisir cette parole par la foi, à la vivre maintenant. Si c'est cette attitude que j'adopte, à ce moment-là, je vais fuir loin du péché. Le péché n'aura plus d'attrait sur moi. Ou du moins, il n'aura pas la victoire sur moi. Il y aura toujours, évidemment, la séduction, la tentation. Mais j'ai les moyens, parce que j'ai cette paix, d'être victorieux. Alors on va s'interroger ensemble et la question que je vous laisse pour conclure, c'est comment on va s'approcher de Dieu? Comment on s'approche de Jésus ce matin? On a deux exemples. On a l'exemple de Simon et on peut s'approcher comme Simon. On peut dire à Jésus, mais je t'invite chez moi, je t'invite dans ma maison, je t'invite dans ma vie. Mais je vais quand même garder une petite distance avec toi. Oui, tu peux venir, tu peux être là, je peux t'écouter, entendre ce que tu as à dire. Mais il va y avoir de la distance, je vais garder cette distance. Je suis à l'écoute, je m'intéresse. Mais bon, quand je suis mis face à moi-même, je peux me dire comme Simon, c'est pas grave, il y a pire. Je peux être comme Simon. Ou alors je peux être comme la femme et m'approcher de Jésus comme cette femme s'est approchée de Jésus. Surmonter tous les obstacles pour qu'il n'y ait aucune distance entre moi et lui. Pour me mettre au pied de Jésus. Pour être dans la position du disciple qui est à l'écoute. Me mettre dans la position de la personne qui veut recevoir ce que Jésus a à me donner. Non seulement pour l'écouter, mais quand je suis mis face à moi-même, pour m'abandonner à sa grâce. Je peux le faire, il n'y a aucun problème, parce que Jésus ne me juge pas. Jésus ne me condamne pas. Et ce matin, là encore, alors que peut-être qu'on est en train de partager ces choses, vous êtes face à ce qui vous tourmente, vous êtes face à des choses desquelles ça inspire la culpabilité. Ou alors peut-être que vous réalisez que vous avez vraiment minimisé et vous accomplissez des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais vous êtes dans cette auto-justification, dans cette argumentation. Quelle que soit la parole qui est déposée dans vos cœurs, il faut donner une réponse. Parce que de cette réponse va dépendre si la grâce va agir ou si elle ne va pas agir. Alors je voudrais vous inviter à vous mettre simplement, on va avoir ce temps de méditation personnelle peut-être, là, ce temps de réflexion, je vous invite à vraiment courber vos têtes, on va se mettre face là. On va s'asseoir à la même table que Jésus. Maintenant ce qu'il faut c'est qu'on soit sûr plutôt d'être comme la femme plutôt que comme être Simon, parce que c'est à ça que la parole nous appelle.